Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Forcément, si on repousse jamais sa limite, on reste dans son confort, on va pas aller très loin. Il faut trouver une forme de confort dans l'inconfort. Il faut s'habituer à que ça n'aille pas, parce que de toute façon, ça n'ira pas. Et c'est ça qui est plutôt cool. C'est comment on gère ces périodes-là. C'est qu'elles arrivent toujours, elles arrivent tout de même, mais c'est comment on les gère et comment on passe outre. Et ça, c'est top. C'est une énorme partie du mental, en fait. Et c'est, je pense que c'est la clé pour faire du long et du très très long. Donc en fait, il y a des objectifs de cercle concentrique. Donc c'est des kilométrages à atteindre à vol d'oiseau et tout est centré sur la ville de Meriden qui est effectivement le centre géographique du Royaume-Uni. Du coup, l'idée c'est donc t'as plusieurs anneaux en fait et en fonction de ton anneau, t'as le droit à une médaille particulière. Donc t'as du rouge, du jaune et le plus important c'est la noire qui correspond à 100 miles. Et passer 100 miles à vol d'oiseau, ça veut dire que, donc 100 miles c'est 168 km, passer ça, ça veut dire qu'il faut au moins en courir 180 en 24 heures. 180 km, 24 heures, ça reste quand même en autonomie complète, une belle marque. La première chose que tu dois faire, c'est planifier ton parcours. Donc tu dois définir quel sera ta trace GPX, qu'est-ce que tu vas suivre comme parcours et où est-ce que tu veux aller en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir la trace qui est la plus efficace, d'avoir que ton kilométrage réel soit au plus proche du kilométrage à vol d'oiseau. Donc tu dois trouver quelque part dans tout ce foutoir des routes une ligne droite. J'avais un coup de moins bien parce que j'avais plus trop de bouffe dans mon sac et je savais que je devais ravitailler, mais il fallait quand même que je fasse les kilomètres pour pouvoir arriver à mon prochain point de ravitaillement. Et enfin, j'étais un coup de moins bien. Et donc, je vois Sean revenir et puis je fais il revient. Et puis au bout d'un moment, bah, il passe quoi. Entre 16 et 17 heures de course, quelque chose comme ça, il passe devant. Et donc, entre guillemets, je laisse partir. Je marche pendant une heure quoi. Je marche pendant une heure parce que je suis KO. Et j'arrive enfin pour ravitailler quoi. Et au moment où je suis en train de ravitailler dans cette station essence, là, Sean, il doit avoir 2 ou 3 km à vol d'oiseau devant moi. Donc en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 3 heures ou 4 heures, il a comblé le trou et il est passé devant. Et je suis en train de me ravitailler et tout. Et c'est là où en fait, je reçois un message d'un directeur de course. Le directeur de course, c'est celui de la course en Irlande, sur lequel j'avais rencontré Sean également. Et donc, il nous connaissait tous les deux. Et il m'envoie un message du style « Mais tu vas vraiment laisser passer Sean comme ça ?»
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Comme le veut la tradition, je profite de ce message inaugural de la saison 2021 pour vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Nous avons tous vécu une année 2020 très particulière qui nous a obligés à radicalement réorganiser notre vie et aussi à repenser notre façon de vivre notre passion de la course à pied. Je nous souhaite donc à tous de meilleurs horizons pour cette nouvelle année et je souhaite à chacun d'entre vous beaucoup de bonheur et espérons-le, beaucoup de dossards. Merci pour vos nombreux messages et témoignages de soutien pour Course Épique, quelle qu'en soit la forme. Messages, commentaires, likes, abonnements sur les plateformes d'écoute, partage en story. C'est un immense plaisir pour moi de sentir autant d'enthousiasme autour de ce projet. Et croyez-moi, ça me donne envie de le mener encore plus loin en 2021, avec vous. La meilleure façon de soutenir Course Épique est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, de lui mettre des avis et des notes sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire grandir ensemble ce beau projet. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Artus, un ultra-trailer au profil atypique, toujours en quête de nouveaux défis et de courses plus originales les unes que les autres. Il va partager avec nous toute la connaissance qu'il a pu acquérir au fil des années sur ses différents projets et nous parler plus particulièrement d'une course au concept très étonnant, l'Escape from Meriden. J'ai vécu un moment passionnant avec Guillaume et je suis convaincu qu'il va vous embarquer de plein pied avec lui dans son incroyable aventure lors de sa course épique à Meriden. Mais je ne vous en dis pas plus. Guillaume va vous raconter tout ça bien mieux que moi.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Hello Guillaume, je suis ravi de te retrouver dans ce 22e épisode de Course Épique. Comment vas-tu?
Bah plutôt bien.
C'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Bientôt Noël?
C'est ça, bientôt Noël.
Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Oui, donc je m'appelle Guillaume Artus, j'ai 30 ans, je fais de l'ultra trail depuis une dizaine d'années maintenant. Et voilà, à la ville, je suis comptable et puis ma spécialité en course à pied, c'est le très long et le très bizarre, on va dire.
Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de ta relation au sport lorsque tu étais enfant et puis ado?
Ouais, j'ai toujours fait du sport en fait. J'ai commencé avec les bébés nageurs. J'allais à la piscine, etc. Et puis un jour, j'ai complètement basculé sur la course à pied quand j'avais 18-19 ans. Et donc j'ai toujours fait du sport. Pas une famille d'ultra sportifs, mais les vacances, on est passé souvent à la montagne et pas à la mer faire la crêpe. Donc forcément, ça donne un peu plus ouais, du dénivelé, d'aller voir un peu des trucs et tout. Donc, vous avez un peu de sport en famille, mais bon, surtout natation. Et puis après, bah, la course à pied, quoi.
Et natation à bon niveau?
J'étais pas très bon. Hein.
Très passionné, alors?
Voilà, j'en faisais pas mal. J'en faisais trois fois par semaine. Voilà, pour ceux qui nagent un peu, j'ai pas réussi à passer en dessous de la minute au 100 crawl en bassin olympique, mais je l'ai passé en petit bassin. Donc, c'est un départemental plutôt moyen, voilà, en termes de niveau. Mais voilà, j'ai appris, surtout à ces moments-là, à m'entraîner, à suivre un plan d'entraînement, la rigueur, etc., qui m'a servi après, beaucoup pour après, quand j'ai commencé à faire des trucs un peu bizarres.
La course à pied, elle a fait son entrée dans ta vie de façon assez inattendue, en tout cas pas tout à fait intentionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ta première vraie expérience de running?
Ouais, en fait, la première fois où je suis vraiment allé courir, en fait, j'étais énervé chez moi. Parce que je pouvais plus avoir accès à une piscine en fait, et je devais bouger sur Angers pour mes études, donc je savais plus comment faire, et donc j'étais très énervé et mon vélo était pété, et donc du coup je suis allé courir à la place, et je suis allé courir autour d'un lac à côté de chez mes parents, et j'ai tourné jusqu'à ce que j'en puisse plus, je me suis épuisé au truc, et après je suis rentré. Et mon père m'a demandé combien j'avais fait en distance, j'avais aucune idée, c'est, j'avais un short pourri, des chaussures même pas forcément adaptées, pas de monde, enfin rien. Et j'ai regardé du coup sur une carte, et donc la première fois où j'ai vraiment couru de ma vie, j'ai fait un semi-marathon.
Ça et, pose les bases.
Ouais, après j'ai une bonne condition physique quand même, donc ça venait pas de nulle part. Mais donc vraiment la première fois c'était un semi, et ça a trotté un petit peu dans ma tête, et puis 6 mois plus tard je me suis mis à courir... Effectivement, j'ai vraiment commencé à courir plus tard. Mais ça a germé un peu plus tard en me disant « Bon, bah, il fallait que je trouve quelque chose pour me dépenser. » Parce que c'est, voilà, le sport, ça permet aussi de te vider la tête quand on a besoin. Ça permet de réfléchir. Moi, je passe plein de temps à réfléchir en courant et autres. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais puis, ouais, découvert complètement par hasard. Quoi.
Et donc, tu t'es essayé à tes premières courses sur route avec tes premiers marathons, et puis petit à petit, à l'appel de la nature qui s'est fait de plus en plus fort aussi.
C'est ça. En fait, j'ai commencé sur un marathon parce que mon frère s'était inscrit sur un marathon de Paris. On l'avait couru ensemble. Enfin, la même édition, il était beaucoup plus fort que moi à l'époque. Ça a un peu changé.
Quelle année c'était ?
C'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus. 2009, je crois. Et, donc, je fais un premier marathon plutôt médiocre, 4h40, etc. Médiocre, c'est pas forcément sur le chrono, hein, c'est sur comment je l'ai couru. Chacun court à la vitesse qu'il veut, ça c'est pas mon problème.
Avec une préparation qui n'était pas optimale selon toi, enfin, c'était aussi la phase à
la préparation, monter. C'était n'importe quoi. Le jour J, c'était n'importe quoi. J'ai marché pendant 10 bornes. Enfin, c'était parti trop vite. Enfin, tout ce qu'on peut avoir comme erreur. Le mur du 36. Enfin, j'ai fait la totale. Et l'année d'après, je ne me suis pas vraiment entraîné non plus. J'ai fait 4h20. J'ai fait moins d'erreurs, mais en gros, j'ai fait les mêmes. Et ensuite, j'ai eu la chance, j'étais en stage dans une boîte où l'entraîneur, c'était Bruno Eubie. Et j'ai eu la chance, du coup, de découvrir ce que c'est un vrai plan d'entraînement, ce que c'est le fractionné. Et là, du coup, c'était du jour au lendemain, entre guillemets. Je suis passé donc de 4h20 sur marathon à 3h30. Enfin, 3h29, j'étais passé en dessous des 1. Avec pour un objectif de passer en dessous les 3h30. Donc, ouais, j'étais dans les 30 secondes de mon objectif. Et là, j'ai compris qu'il fallait s'entraîner et comment il fallait s'entraîner. Et je suis d'ailleurs toujours les méthodes d'entraînement et les principes que j'ai appris pendant ces 6 mois de stage et donc avec Bruno, parce que c'est fondamental en fait. Et puis après, maintenant, bon, les plans d'entraînement sont un peu plus bizarres, mais on fait x10, grosso modo. Mais ouais, ça reste la même chose, la même philosophie. Donc, ouais, de savoir s'entraîner maintenant tout seul, puis avoir de coach et autres, mais garder la philosophie de quelqu'un qui a quand même qui avait gagné les 100 km de Mio, donc il connaît un petit peu son sujet, quoi.
Effectivement, une référence notable. Justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, tu es très méthodique et pragmatique dans ton approche de la course à pied. Est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont tu définis toi tes objectifs, tu construis ton programme, puis tu structures l'acquisition des compétences requises pour te donner toutes les chances de réussite? Je pense notamment au concept de MENA,
c'est
cher.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est... Donc moi, je fonctionne par projet. Ce qui m'intéresse, c'est je me mets un gros objectif pour dans 5 ans. Je parle pas de la course de l'année, ou etc. Pour moi, c'est aller placer un objectif pour plus tard. Un espèce de truc qui n'est pas censé être possible au moment où tu le planifies. Donc au mo moment où j'ai vraiment commencé à courir, ça a été l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et ensuite, une fois que j'ai fini l'UTMB, ça s'est transformé sur la traversée des Alpes, qui est la Via Alpina. Et voilà, c'était des cycles de 5 ans, des cycles longs. Et donc, quand tu as un objectif qui est très lointain, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, par rapport à ton objectif, tu es nul, mais vraiment nul. Et donc, tu dois tout bosser. Et c'est là où est rentré en compte en fait le concept de MENA. Donc, MENA, c'est simple, c'est mental, endurance, navigation et autonomie. Et pour moi, c'est les 4 facteurs clés pour pouvoir traverser des chaînes de montagne en autonomie. Et donc, l'objectif, c'est de structurer cette phase de 5 ans autour de ces 4 objectifs. Donc, c'est une approche par compétence, en fait. C'est-à-dire, tu vas aller travailler sur un objectif... sur une course en particulier, une telle ou telle compétence, et tu sais pas vraiment comment ça va fonctionner, mais l'objectif c'est d'être meilleur en endurance, meilleur en mental, meilleur en navigation, et donc tu vas choisir des événements qui vont être spécifiques pour telle ou telle chose. Donc le mental, c'est aller faire 200 mètres dans un tunnel, c'est monter 271 fois les marches de Montmartre en mois de décembre. Tu peux avoir des courses avec beaucoup plus de navigation, comme la Barclay. Tu peux avoir des choses avec beaucoup d'autonomie, comme tu vas avoir donc sur Escape from Meriden et des choses comme ça. Et donc, tu as des courses qui vont combiner un peu tout. Et les combiner un peu tout, c'était par exemple le Tour des Géants, qui est en gros 2 UTMB à la suite enchaînés dans la vallée d'Aoste. Et la traversée des Pyrénées, par exemple, de l'océan à la mer Méditerranée.
Est-ce qu'il y avait justement dans ces 4 composantes clés, est-ce qu'il y en avait certaines sur lesquelles tu penses que tu avais plus de travail ou qui étaient peut-être moins spontanées?
Je
Je sais pas.
savais que le mental, c'était celui où je devais vraiment, vraiment travailler, puisqu'en fait, sur l'UTMB, en fait, les 10 derniers kilomètres, j'ai mis 6 heures à les faire. En gros, je suis arrivé en haut de la dernière montée, et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Et du coup, j'ai mis 6 heures à faire 10 km, ce qui est absolument ridicule quand c'est de la descente. Et donc, ça ne m'est plus jamais arrivé. Je me suis retrouvé dans le même cas avec l'envie de dire que c'était terminé sur le Tor des Géants, et pareil, il restait 10 km plus qu'une descente, et là j'ai fait c'est mort. Et j'ai mis une douille mais de l'espace justement pour pouvoir rentrer ça et du coup apprendre de mes erreurs. Donc le mental, je pense que c'était le principal facteur. Et ensuite au début, j'avais pas encore identifié la notion d'autonomie et de navigation comme étant des composantes clés. Je pensais qu'il y avait bien entendu le physique, donc l'endurance fondamentale. Et ce qui est assez drôle, j'ai passé tellement de temps sur ces dernières années à bosser le mental, la navigation et l'autonomie que maintenant je pense que mon point faible, c'est l'endurance, c'est le physique. Ce qui est assez, assez drôle quand tu penses que c'était au début censé être le point fort et au final, je pense que c'est vraiment ce
Les
qui est plus
vases
faible, quoi.
communicants.
Ouais.
Tu as commencé à nous le dire, tu as tendance à privilégier des formats de course au concept assez inattendu. Qu'est-ce qui te pousse vers ce type de course? Est-ce que ça veut aussi dire que tu as fait le tour des formats classiques de course qui t'intéressent plus aujourd'hui? Ou est-ce que tu as toujours eu ce penchant vers ces courses un peu inhabituelles?
Un peu des deux. Après, j'ai fait quelques grosses courses. Enfin, j'ai fait le marathon des sables, des choses comme ça. Donc, dans des formats qu'on connaît. Après, j'ai pris énormément de plaisir sur une échappée belle. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais j'aime bien les concepts un petit peu différents parce que les barrières horaires, en général, sont difficiles. Donc, tu as la notion de s'inscrire, mais on ne sait pas si on va finir. Ce que j'aime aussi dans la course à pied, dans l'ultra, c'est de repousser ses limites. Et donc, forcément, il y a un moment où il faut se mettre en danger pour aller repousser ses limites, s'inscrire sur quelque chose où on n'est pas sûr de finir. Et c'est vrai que sur les formats plus étranges, et ben cette limite arrive beaucoup plus, beaucoup plus rapidement que sur un événement où, oui, avec ton allure personnelle, tu sais que tu as 20 heures de marge. Donc 20 heures de marge, enfin, c'est beaucoup trop, entre guillemets, pour se sentir en danger par l'épreuve, quoi. Donc, et puis l'adversité va aussi te permettre de te révéler, soit de montrer tes forces, mais surtout tes faiblesses. Et ben, j'ai échoué plein de fois, hein, bien sûr. Donc, il y a plein de trucs que j'ai dû abandonner au milieu et autres, mais j'étais venu valider tel ou tel item. Et voilà, donc.
Qu'est-ce qui t'a apporté ces échecs justement? Est-ce que ça a servi dans ta construction justement?
Ouais,
Ça fait partie,
absolument.
enfin tu l'acceptes dès le départ qu'il y ait ces échecs et à la limite il en faut dans ton parcours
Il en
pour
faut,
justement
en fait, parce qu'en
progresser
fait,
et apprendre?
c'est très difficile de savoir ce qui marche quand tout marche et ce qui marche pas quand tu as l'impression que ça a marché, quoi. Alors que quand tu as un échec, tu l'as bien au milieu de la figure, c'est plus simple d'identifier ce qui a pas marché. Et l'objectif, du coup, c'est d'apprendre de ça pour pouvoir grandir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont nées des échecs, quoi. Il faut vraiment, du coup, se mettre en danger pour le faire. Alors, ça ne veut pas dire partir tout seul en montagne sur des lignes de crête qui sont des lignes de crête d'alpinisme pour aller faire des trucs. C'est pas du tout ça, hein. La mise en danger, c'est un cadre qui, lui, est sécurisé. Mais par rapport à tes propres limites, là,
Il y a une part d'inconnu, pareil,
Il ouais, y a une part d'inconnu et ça te permet d'aller voir autre chose, quoi. C'est comme la première fois que tu passes le marathon, tu prends le mur du 36, ben, tu as des murs après, tu vois, tu as le 72, tu as le 143, tu as le 273, tu as le 418. Tu vois, tu en as d'autres après. Et c'est d'autres types de murs, tu vois. Il y en a un, c'est un mur physique. Et après, il y a des fractures du mental, entre guillemets. Et il y a aussi toute la partie autonomie et gestion du multijour et des efforts qui influent sur le reste après. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes, et forcément, si on repousse jamais sa limite, on reste dans son confort, on va pas aller très loin. Il faut trouver une forme de confort dans l'inconfort. Il faut s'habituer à que ça n'aille pas, parce que de toute façon, ça n'ira pas. Et c'est ça qui est plutôt cool. C'est comment on gère ces périodes-là. C'est qu'elles arrivent toujours, elles arrivent tout de même, mais c'est comment on les gère et comment on passe outre. Et ça, c'est top. C'est une énorme partie du mental, en fait. Et je pense que c'est la clé pour faire du long et du très très long.
Hormis l'Escape from Eden, on va avoir largement l'occasion de parler un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques courses qui t'ont particulièrement marqué jusqu'ici? Donc je sais que l'exercice est impossible parce qu'il y en a eu plein.
Oui, il y en a
Est-ce qu'il y en
quelques-unes,
a
ouais.
deux ou trois qui te laissent vraiment une empreinte enfin, voilà, durable et particulièrement forte? Est-ce qu'il y a des courses qui t'ont vraiment construit, qui ont eu un impact sur personnel, enfin, tu vois, au-delà de
Ouais,
la dimension sportive, les deux, trois qui comptent parmi celles, elles ont toutes compté à leur façon, j'imagine?
c'est vrai que tout a apporté quelque chose, mais j'ai beaucoup aimé l'échappée belle. L'échappée belle, en fait, j'étais parti. Donc, c'est un 141 km, 11 000 de dénivelé dans le massif de Belledonne, au-dessus de Grenoble, et on traverse le massif. Et je m'étais donné comme objectif pour cette course-là de maintenir un effort constant sur l'ensemble de la course, en fait. Donc, c'était vraiment pour travailler la gestion. Donc, c'était au sein même de l'endurance, j'allais gérer la gestion de course et la gestion de l'énergie, en fait. Et en fait, je suis parti à allure constante. Donc, j'étais au début du premier pointage, j'étais dans les 50 derniers. J'ai maintenu l'effort constant tout le trail. Et du coup, je me suis retrouvé dans le top 50. Et donc, j'ai passé ma
Et pas pour une
journée
chanson.
à doubler. Ouais, non, pas pour une chanson. Pas pour une chanson, mais ouais, je me retrouvais, du coup, dans le top 50 sans avoir vraiment eu l'impression de rien faire. Et il se trouve que c'est l'un des meilleurs résultats en course à pied, alors que c'était censé être un jour lambda. Et c'est vrai que ça, c'était assez cool de voir en fait, d'avoir une méthode et une approche simple et de travail peut, en fait, tu peux quand même avoir des résultats et te faire plaisir sur une course pendant. Après, bah c'est vrai que ça m'est arrivé sur Escape from Meriden, mais il y a des moments où tu pars pour une course, tu viens travailler un item, et ensuite tu vois quelqu'un qui est juste devant toi et tu as juste envie d'aller le passer, quoi. Donc, tu vois, ça n'empêche pas d'avoir un esprit de compétition, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je suis sur une course, c'est pour travailler quelque chose. Donc, si je finis pas ou autre, j'essaye au moins d'aller valider une partie du point que j'étais venu travailler, ou au moins avoir une photo. Bah voilà, c'est ce que tu es aujourd'hui, tu pensais être mieux, mais en fait non, bah
Voilà ce qui
retourne
reste
à
à
la table
bosser.
d'école, reva bosser. Il faut retourner bosser, quoi. Ouais.
Tu es très autonome aujourd'hui dans la construction de tes programmes. Tu participes souvent à des courses en solitaire et pourtant le partage, c'est une notion qui est très importante pour toi. Je t'ai entendu l'évoquer beaucoup. Est-ce que c'est ta façon à toi de vivre tes courses finalement et tes projets et tes défis d'abord pour toi et de les partager ensuite? Enfin, à quel point ça s'inscrit dans un projet collectif ou est-ce que toi, c'est important pour toi de vivre ce truc pour toi d'abord et ensuite de le partager voilà, de fédérer autour de ce projet?
Ouais, moi j'aime beaucoup l'autonomie, parce que, enfin, d'être tout seul, effectivement, parce que tu peux te raccrocher à personne d'autre, tu dois savoir faire. Tu dois savoir trouver les solutions, que ce soit dans ta tête ou dans tes jambes, mais tu dois savoir trouver les solutions. Donc, pas cette partie-là, j'adore. Et donc, c'est vrai que je suis plutôt un sportif solitaire. Maintenant, ça m'arrive de participer sur des courses pour y aller avec des copains. Mais dans l'ensemble, c'est plus pour moi un sport vraiment, vraiment solitaire. Mais dans le même temps, je trouve que ça serait dommage d'acquérir de l'expérience et de voir des choses aussi incroyables sans les partager. Et donc, c'est pour moi, c'est la même pièce, c'est juste les deux faces de la même pièce. Il y a une partie, la manière dont je l'aime le pratiquer, c'est en autonomie pure et sans dépendre de personne, mais dans le même temps, de pouvoir utiliser toute cette expérience pour pouvoir la partager et transmettre, donner à l'envie de quelqu'un aujourd'hui d'aller faire une rando, de donner des conseils sur comment organiser une sortie, d'aller comment tu peux trouver une trace GPS, comment tu peux t'organiser pour que tu partes sur ta propre aventure. Et donc cette partie de transmission aussi, je trouve que c'est hyper important parce que sinon ça serait vraiment de l'égoïsme pur de juste partir à l'aventure, d'avoir acquis des tonnes d'expériences pour avoir échangé avec plein de gens et derrière tu ne restitues rien. J'ai commencé plus depuis 2019 à le faire parce qu'avant je me sentais pas non plus légitime à le faire, même j'avais vu deux trois trucs, tu vois, mais je me sentais pas non plus légitime de pouvoir être écouté comme parole. Et puis maintenant, bon, j'ai vu un peu plus de trucs, donc je pense que sur deux trois trucs, je peux expliquer
Quelques
deux trois petites
enseignements.
choses et donner envie aux gens d'aller voir en montagne, d'aller voir les trucs, quoi.
Comment est-ce qu'on passe d'un premier marathon en 4h40 à la Via Alpina et ses 2150 km et 170 000 mètres de D+? C'est beaucoup de travail, évidemment, mais est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que c'est la seule condition pour réussir? Est-ce que toi, tu penses que tu l'as réussi parce que tu as quand même des atouts naturels qui te permettent de le faire? Ou est-ce que finalement, en appliquant cette méthode, potentiellement, moi ou nos auditeurs demain pourraient imaginer aller sur ces formats juste en se donnant le temps de la construction et en bossant?
Ça prend du temps et ça prend du. C'est une bonne question. Si une personne en a vraiment envie, elle peut le faire, il lui faut juste 10 ans de partir d'un marathon 4h40 pour y arriver. Peut-être plus rapidement ou un peu plus long en fonction des capacités actuelles, etc. Mais c'est surtout une question d'envie, en fait, je trouve. Moi, j'ai pas de capacité particulière, j'ai pas un patrimoine génétique de dingue pour faire de l'endurance ou autre. Enfin, tu vois, je suis pas le fils de Kylian et d'Emilie Frosberg, tu vois. Enfin, et après, lui, au passage, il fera ce qu'il veut. Mais voilà, j'ai pas de prédisposition. Par contre, l'envie et la capacité de gérer des projets et de poser des rêves un peu lointains en projet, ça, par contre, oui, ça, c'est le vrai atout et ce qui fait, je pense, la différence. Maintenant, si quelqu'un a cette même envie et que c'est son projet à lui, je vois pas pourquoi il pourrait pas arriver. Ça prend du temps, mais ouais, c'est juste une question de travail pour moi. Mais le travail ne sera jamais fait si t'en as pas vraiment envie. Ça doit être personnel. Ça doit être une envie. C'est vraiment ce que tu as envie de faire. Ok, go, vas-y. Mais si ça. Tout part de là. Tout part de là. Et c'est ce qui restera quand tu seras au fond du trou, que tu n'auras pas mangé depuis 10 jours et que tu seras toujours en train d'avancer. C'est la seule chose qui restera. C'est ton envie intrinsèque, le pourquoi. Pourquoi tu le fais. Et tant que tu n'as pas de pourquoi, tu peux pas y arriver. Pour moi, sans le pourquoi, c'est impossible. Mais si tu as ça devient absolument facile à faire. Ça prend du temps, mais c'est facile.
La course à pied, elle tient évidemment une place prépondérante dans ton quotidien, au-delà
Oui,
des grands
évidemment.
défis dont on a parlé et que tu as évoqué, donc avec une charge de travail qui doit être très importante. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'organise une semaine type pour toi? Je ne sais pas si elles se ressemblent toutes, pas nécessairement, j'imagine, mais pour juste avoir une idée de la volumétrie de charge, tu parlais de x10 tout à l'heure, enfin voilà.
Ouais, en gros, l'idée, c'est. Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on ne pouvait pas sortir au-dessus d'un kilomètre. Donc, j'ai fait pas mal de vélo en alternance. Je faisais, par exemple, pour le premier confinement, j'ai fait 100 km de vélo par jour sur home trainer pendant 50 jours. Donc, ça fait 5 000.
Joli.
C'est un chiffre rond, c'était plutôt rigolo. Également, ça veut dire normalement une semaine standard hors année Covid. En gros, je suis à 120, 130 km par semaine. Et puis, il y a des semaines de charge qui peuvent monter. Encore. Mais grosso modo, c'est 5 entraînements par semaine avec un marathon le mardi soir et un marathon le dimanche. Quand je dis un marathon, c'est au moins 42, hein, ça peut être 45, 50, enfin ça dépend. Et ensuite, dedans, on va avoir des fractionnés longs où on va faire des blocs de 20 minutes et on va faire une sortie de 30 bornes parce qu'on fait 3 blocs ou 4 blocs de 20 minutes. Et puis la sortie la plus courte, elle fait 16 bornes. Donc ça fait tout de suite du kilométrage. Et j'en fais énormément sur du plat. Énormément sur du plat. Et ensuite, j'utilise beaucoup des courses comme module d'entraînement. Donc au lieu de me faire un week-end choc, aller m'entraîner, etc., en fait, je m'inscris sur une course. Et on va aller courir 24 heures, on va faire 170 km, etc. Donc en fait, c'est mes sorties longues sont des ultras. Tu vois, quand tu prends un plan de construction normal d'un plan d'entraînement, tu peux avoir une sortie longue pour un marathon qui serait un 25 bornes un dimanche. Et ben moi, je vais aller sur une course pour aller faire un ultra pour faire un 170. Donc mais c'est la même idée si tu veux. Tu vois, c'est un moment où tu vas aller faire 170 bornes parce que c'est ce que tu as dans ton plan d'entraînement. Mais c'est la même. Tu vois, la philosophie, c'est vraiment la même chose. C'est juste les chiffres sont un peu différents, quoi.
Les courses, c'est ce qu'il y avait avant 2019, hein, c'est ça? Jusqu'en
Ouais,
2019, c'était
c'est quand tu
le
avais un
concept.
dossard.
Ah
Ouais.
oui, ça
Et
m'évoque
en
des
fait,
choses.
tu devais avoir des épingles à nourrice que tu n'avais jamais, mais tu devais en avoir. C'est dingue. Et puis maintenant, j'ai retrouvé tout mon stock, maintenant que je ne peux pas l'utiliser, bien sûr.
Ça ira mieux en 2021, j'en suis sûr.
C'est ça.
Merci beaucoup pour cette intro, Guillaume. On va passer à notre redoutable séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de te continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu?
Francis Blake de Blake et Mortimer. C'est un colonel, mais c'est pas la partie qui m'intéresse, c'est plutôt sa capacité à déduire des choses et à anticiper les problèmes.
C'est le barbu?
C'est pas le barbu, c'est
Ah,
l'autre.
étonnant.
C'est le grand blond.
D'accord.
Je suis pas du tout grand, je suis blond,
Et tu es barbu?
mais je suis barbu, donc c'est un mix de tout, mais plutôt Blake que Mortimer, ouais.
C'est les BD qu'ont bercé ton enfance?
Oui, et puis c'est la BD aussi que je reçois toujours à Noël pour mes anniversaires. J'ai l'interdiction depuis 10 ans de les acheter moi-même, puisque je sais que de toute façon ça sera fait. Et c'est toujours avec plaisir que je lis les nouveaux tomes. Donc je sais que dans quelques jours il y en aura
Oui, il y en
forcément
a un
sur
qui vient de
certains.
sortir,
Oui,
j'ai lu.
absolument.
Si tu étais un animal, qui serais-tu ou quel serait-il?
Pas lièvre, mais plutôt tortue dans la fable.
Ok.
Plutôt tortue, voilà, la vitesse c'est pas forcément ce qui m'intéresse, le record non plus, mais aller loin et en autonomie c'est plus ça, donc la tortue.
Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement?
En général, je trouve les femmes dans l'ultra trail sont absolument incroyables. Il y a des courses où on est en train de des formats de course qui permettent de limiter la différence de genre et l'ultra trail a cette capacité-là et je trouve que c'est absolument incroyable. Donc je dirais les femmes en général dans le monde de l'ultra trail. Et si on fallait en choisir une, Courtney Dolloway, pour toute son œuvre, pour ses performances sur la backyard, pour ses performances sur 100 km, sur 24 heures, sur 100 miles, c'est absolument prodigieux.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume. Le moment est venu parler de ta course épique, l'Escape from Meriden. On aurait pu faire l'Escape from Meribel cette saison avec cette période hivernale, même s'il n'y a pas de remontée mécanique malheureusement. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas tout dévoiler sur le concept de cette course et je vais te laisser nous en parler plus longuement juste après. Pour planter en quelques mots le décor, je vais juste faire référence à l'énigmatique message disponible sur le site de l'événement. À Meriden, une croix, voilà, il faudrait des bruitages de corbeaux et tout ça, je
C'est un
pense
peu
pour qu'on
ça,
soit
oui.
vraiment dedans. À Meriden, une croix vieille de 500 ans marque le centre de l'Angleterre. À minuit, 100 prisonniers vont partir en fuite depuis cette croix en empruntant le chemin de leur choix. Ils disposent de 24 heures pour s'éloigner le plus loin possible de Meriden à pied. Plus ils iront loin, plus grande sera leur récompense. Le corbeau les observe. Voilà qui fait froid dans le dos et ça ne s'arrange pas si on imagine en plus que la course a lieu en novembre et en Angleterre.
C'est ça.
Bon, avant que tu partages avec nous le récit de cette course épique, un petit exercice pas simple, c'est la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités.
Même planter, ça va être cool.
Mais non, mais non, mais non. Nos éditeurs vont l'entendre, le thème de l'évasion va être assez central dans cet épisode, et qui dit évasion évoque nécessairement l'idée de prison mythique, et qui dit prison mythique dit évidemment
Alcatraz.
Alcatraz, absolument. Pour tous se rafraîchir la mémoire sur le sujet, l'île Alcatraz, elle est cédée au département de la justice américaine en 1933 afin d'enrayer la criminalité aux États-Unis. La justice américaine est bien décidée alors à en faire un établissement pénitentiaire modèle avec un quartier hautement sécurisé où les conditions de vie sont particulièrement rudes. Il était en principe impossible de s'échapper de cet établissement pénitentiaire le plus surveillé des États-Unis et surtout construit à l'écart de tout sur un piton rocheux en mer dans la baie de San Francisco en Californie. La légende du Rock était ainsi née et a compté entre ses murs des détenus célèbres tels que Al Capone. Voilà ma question qui pique pour toi, Guillaume. Quelqu'un a-t-il déjà réussi à s'échapper d'Alcatraz selon toi?
Pour moi, il y en a deux, si je me souviens bien.
Eh bien alors, c'est effectivement une bonne réponse. En fait, il n'y a pas tout à fait de bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a une part d'incertitude
C'est
sur oui, non.
ça,
Il y a une
ouais.
légende qui est nourrie et entretenue. Ce que je peux te dire, moi, c'est qu'il y a 36 prisonniers qui ont tenté le coup, en tout cas. Parmi eux, 23 ont été rattrapés, 6 ont été tués par balle, 2 autres se sont noyés et 2 autres encore ont été exécutés pour avoir tué un gardien. Donc tu as fait le décompte de toi-même. Il en reste, alors pas tout à fait deux, mais trois.
Il en reste plus, ouais. Trois, ok.
Frank Morris et les frères Clarence et
J'avais les frères Englin. En tête, j'avais pas l'autre. Ouais, pour moi, c'était deux frères, ok.
Et ils sont évadés de The Rock le 11 juin 1962. Ils auraient creusé les murs avec des cuillères aiguisées et seraient parvenus à tromper la vigilance des surveillants en fabriquant des mannequins en papier mâché qu'ils auraient placés dans leur lit le temps de l'évasion. C'est les bonnes vieilles recettes qui marchent toujours. La légende raconte qu'ils auraient quitté l'île au bord d'un radeau de leur propre conception et ils ont ensuite disparu et n'ont jamais été retrouvés. Un an après cette extraordinaire évasion, il se trouve que la prison d'Alcatraz a fermé. Elle est devenue aujourd'hui une attraction touristique majeure. Et lui, le trio, depuis, n'est jamais réapparu. Le FBI a classé l'affaire 17 ans après. Certains pensent le trio mort-noyé, d'autres dont la famille les croit toujours en vie. Donc il y a une grosse interrogation là-dessus. La légende raconte en tout cas que la mère des deux frères aurait reçu des fleurs sans carte chaque année, et ce jusqu'à sa mort. Un scénario digne d'un film hollywoodien qui a d'ailleurs donné lieu à une adaptation sur grand écran en 79 avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Heureusement pour toi, tu n'as pas eu à en venir jusque-là pour tenter de t'évader de Meriden, et c'est ce que tu vas nous raconter maintenant, Guillaume, partageant ta course.
C'était un peu plus simple, j'avais pas de cuillère.
Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as entendu parler pour la première fois de cette course et ce qui t'a convaincu d'y participer la première fois ?
Oui, en fait, je connaissais. En fait, au Royaume-Uni, il y a deux directeurs de course qui sont responsables de 90% des courses vraiment étranges. L'un s'appelle Richard et l'autre s'appelle Marc. Et on verra tout à l'heure, mais les deux sont de mèche dans ce projet-là. En fait, j'en ai entendu parler en 2017, en début d'année. J'étais sur une autre course qui s'appelle. C'est un Last One Standing, donc c'est le format des backyards, etc. C'était la deuxième course créée sur le format.
Pour expliquer peut-être en deux mots, il faut être le dernier à être debout.
Voilà, il faut être le dernier à être debout. Il faut faire une boucle de 6,4 km toutes les heures, à parcourir toutes les heures jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Et donc j'étais sur ce format-là pour m'entraîner justement. Et j'étais en Irlande du Nord. Et j'ai rencontré plein de gens que je connaissais là-bas, dont Gary Morrison. C'est un gars qui est. On en parlera tout à l'heure, c'est un sacré personnage, mais voilà, j'en ai entendu parler là-bas, et donc du coup, bah, je me suis inscrit, puisque je trouvais le concept absolument délirant de voir tout le monde se barrer dans tous les sens au moment du départ, et puis de finir au milieu de nulle part. Et puis ensuite, quand tu as fini ta course, mais en fait, tu n'es pas tout à fait fini, il faut quand même pouvoir rentrer, donc il faut bien gérer. Et toute la partie autonomie, d'être en solitaire, etc., je trouvais ça assez cool. Donc j'ai découvert ce format un peu par hasard, par bruit de couloir. Mais bon, quand on commence à faire des formats
de
bizarres,
la mort, de couloir pénitentiaire.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais quand on commence à faire des formats bizarres, en fait, on rencontre souvent les mêmes personnes qui connaissent les autres petits filons. Il y a des courses qui s'appellent genre Dead Sheep ou les trucs comme ça. Enfin, t'as les trucs assez sexy.
Les organisateurs peuvent être créatifs.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, oui, j'ai découvert ce format, je me suis inscrit. Et donc, en fait, t'as la possibilité. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'aller le plus loin à vol d'oiseau. Donc, c'est à toi de choisir ton parcours. Et c'est à toi de savoir où est-ce que tu peux passer, comment tu veux faire tes ravitaillements, etc. Donc, tu peux avoir une assistance. Bon, j'en avais pas. Parce que bon, du coup, je venais pour le week-end, tu vois. Je partais vendredi soir après le travail, je prenais un avion. Tu sais, c'est les trucs qui volent, les trucs qu'on n'utilise plus là.
Ah, le truc aussi d'avant 2019, ouais. Là, oui.
Et du coup, ouais, je prenais l'avion le vendredi soir, j'arrivais à Meriden, je prenais un burger dans le truc du coin, une petite Guinness, et ensuite, une heure plus tard, on allait démarrer et on courait pendant 24 heures. Puis après, je suis arrivé dans les environs de Londres. Et puis dans les environs de Londres, bah, j'ai pris l'Eurostar. Et puis le lundi, j'étais au taf, quoi. Donc, ça, c'est des bons week-ends, tu vois. Des bons week-ends.
Je pense que tes collègues n'avaient probablement pas vécu exactement la même chose pendant le
week-end. Non, il devait y avoir un truc un peu plus cool. Maintenant, ils sont au courant. Ils savent que, bon, alors, t'as fait quoi comme truc débile ce week-end? Ils le savent. Ça, c'est rigolo. Mais du coup, c'était une découverte. Et puis, c'était l'une des premières fois aussi où j'étais vraiment en autonomie sur 24 heures. Sans ravitaillement, tu vas te ravitailler dans les stations essence, tu arrives au milieu de la nuit, tout le monde te regarde en mode qu'est-ce qui se passe, enfin, t'as l'impression d'être un peu un ovni, donc c'est plutôt marrant, on va pas se mentir.
Et donc avant l'édition 2018, qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, tu as eu l'occasion de participer à l'édition précédente dans un format de binôme un peu différent du format de 24 heures. Est-ce que tu peux nous en donner les grands principes,
ouais,
et nous parler de cette première expérience à Meriden?
Complètement. Donc du coup, la première fois que je suis allé à Meriden, donc, c'était sur la version enchaînée de cette course. Donc au lieu de 24 heures, tu dois faire 36 heures et avec l'obligation de faire 210 km en kilométrage réel, plus passer le cercle des 50 miles, donc un peu 85 km grosso modo, à vol d'oiseau. Donc l'idée en fait, c'est tu dois donc partir avec ton binôme enchaîné, donc avec une vraie chaîne. Donc c'est une chaîne de 1 mètre en métal. Hein. Tu l'accroches à ton poignet des deux côtés. Enfin voilà. Et de chacun un poignet. Et donc tu es obligé de courir comme ça, enchaîné avec quelqu'un d'autre, enchaîné avec quelqu'un d'autre. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir un binôme assez costaud. Donc le fameux Gary Morrison qui m'avait parlé donc du format en premier lieu, on s'est inscrit ensemble. Et en fait ce gars-là, donc il a gagné la Spine, qui est l'un des ultras les plus durs d'hiver au Royaume-Uni, qui se passe tous les 2 ans. Donc il l'avait gagné et il était ancien entraîneur, entre guillemets, des Royal Navy. Donc c'est l'équivalent des...
Une brute, disons-le.
Oui, c'est quelqu'un
Dans
de
le bon sens du
jovial, tu vois.
terme.
Ouais,
Oui,
ouais.
dans le sens
Et
du
c'est
terme.
quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, autonomie, tu vois. Et donc du coup, j'étais hyper honoré de pouvoir partir avec lui, et on avait hyper bien accroché justement en Irlande quand on était ensemble, et donc du coup lui aussi voulait courir en fait avec moi, donc c'est
C'est
tombé
fini.
parfaitement, le genre de truc qui existe qui est pas censé exister mais en fait si. Et donc du coup j'ai eu le droit à une masterclass pendant 36 heures de comment gérer son autonomie, gérer sa vitesse, etc. Et la planification. Et donc on a eu une expérience assez incroyable parce que c'était réputé infaisable. Puisqu'en fait, si tu as quelqu'un qui se blesse, l'un des deux, ça s'arrête, et tu vas toujours à la vitesse la plus basse des deux, en fait. Donc c'est très difficile de maintenir, d'avoir des moments forts en même temps, des moments faibles en même temps, pour éviter de contrebalancer. Donc une gestion collective également très, très compliquée. Voilà, aller aux toilettes quand tu es enchaîné et que tu peux pas enlever la chaîne, c'est
J'y avais
incroyable.
pas pensé à ce point-là.
Ça crée des liens, ça crée des liens, on va pas se
C'est le
mentir.
cas de le dire.
Et ouais, c'était vraiment une masterclass, et c'est là où j'ai beaucoup appris sur la partie autonomie, la gestion des trucs. Et puis on a eu le plaisir donc de finir les 210 km avec quelques minutes seulement d'écart par rapport à la barrière horaire. Et donc on est au final l'une des deux équipes à avoir fait l'ensemble des 210 km, et on est arrivé avec 10 minutes de moins en fait que l'autre équipe, qu'on n'était pas au courant. Et donc du coup on finit deuxième, mais on avait surtout battu ce truc-là qui était réputé absolument impossible. Donc c'était assez incroyable, et une sensation absolument folle aussi d'être enchaîné avec quelqu'un. Donc tu cours avec un bras dans le dos en fait, hein. Et toutes les heures t'inverses, parce que de temps en temps tu peux pas courir l'un à côté de l'autre en fait. Tu vas être obligé d'être sur une ligne en file indienne en fonction du parcours que tu choisis. Donc j'ai couru 18 heures avec un bras dans le dos et l'autre le bras devant, et lui l'autre bras dans le dos, quoi. Et aussi tu retiens ton bras en fait, donc tu le maintiens toujours, tu peux pas faire ton balancier comme tu as l'habitude, donc ça crée plein de problèmes. Tu as une asymétrie en termes de douleur sur ton épaule gauche et ton épaule droite. Enfin c'est tout un monde, c'est très très drôle. Tu as intérêt à t'entendre bien avec ton binôme. Parce que ouais, ça fait toute la différence, quoi. On va pas se mentir.
Si on revient sur l'édition 2018, donc l'année d'après, est-ce que toi, tu avais mis en œuvre une préparation, on va parler de la préparation de la course en elle-même et notamment du trajet, mais sur ta prépa physique, est-ce que c'était dans la continuité d'une prépa et ton objectif qui était probablement la Via
C'est
Alpina à ce
ça, ouais,
moment-là?
c'était complètement dans l'objectif de travailler l'autonomie, la Via Alpina. Mon objectif, c'était de... Donc en fait, il y a des objectifs de cercle concentrique. Donc c'est des kilométrages à atteindre à vol d'oiseau, et tout est centré sur la ville de Meriden, qui est effectivement le centre géographique de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pardon. Et du coup, l'idée, c'est donc tu as plusieurs anneaux en fait, et en fonction de ton anneau, tu as le droit à une médaille particulière. Donc tu as du rouge, du jaune, et le plus important, c'est la noire, qui correspond à 100 miles. Et passer 100 miles à vol d'oiseau, ça veut dire que, donc 100 miles, c'est 168 km. Passer ça veut dire qu'il faut au moins en courir 180 en 24 heures. 180 km, 24 heures, ça reste quand même en autonomie complète une belle marque. Et du coup, l'objectif, c'était de passer ça, passer et d'aller chercher la black medal. C'était vraiment mon objectif.
Est-ce que tu peux nous parler des différentes composantes clés de la course? Tu as évoqué là, les grandes lignes de la partie autonomie. Toi, tu n'avais pas d'assistance. Il y a aussi toute la logique de tracking, du suivi
Ouais.
ton parcours, mais aussi de tes concurrents qui sont finalement peut-être à 300 km de toi physiquement,
C'est
mais qui sont
ça.
en réalité 1 km de toi derrière toi sur la course.
C'est ça en fait. Donc la première chose que tu dois faire, c'est planifier ton parcours. Donc tu dois définir quelle sera ta trace GPX, qu'est-ce que tu vas suivre comme parcours, et où est-ce que tu veux aller en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir la trace qui est la plus efficace, que ton kilométrage réel soit au plus proche du kilométrage à vol d'oiseau. Donc tu dois trouver quelque part dans tout ce foutoir des routes une ligne droite, grosso modo, peu importe où tu vas. Donc moi, mon objectif, c'était de rejoindre Londres. puisque bah, l'Eurostar, il est à Londres. Donc, c'est plus simple. Et donc, j'ai trouvé une trace qui était plutôt optimale, qui était à 93% d'optimale. Donc, ça veut dire pour 100 km, j'ai 93 km à vol d'oiseau. Donc, j'ai seulement 7 km qui, entre guillemets, ne servent à rien. Ce qui est plutôt pas mal. Tout ce qui est au-dessus de plus 90, il y a très peu de traces au final qui peuvent faire ça. Et donc, l'objectif, ouais, c'est de définir vraiment sa trace. Et moi, j'avais un petit trick au sein de ma manche. C'était que j'avais prévu que les derniers kilomètres de la trace soient effectivement une ligne droite, hyper efficace, qui s'ajoute directement sur la vol d'oiseau. Parce que, comme on est en train c'est des duels à distance, en fait, avec des gens. Donc, moi, j'étais plein est, direction Londres. Et mon concurrent principal était sud-ouest, quoi. Et du coup, on
C'était
était en duel à
l'estocade finale,
distance.
tu voulais
Voilà.
lui.
Voilà. Donc, à vol d'oiseau, entre nous deux, on était à 300 et quelques kilomètres d'écart. Mais en réel, on était très, très, très proche. Très proche, ouais.
Est-ce qu'on peut dire justement toute la partie de préparation et du parcours, enfin, tu l'as expliqué, l'idée c'est d'être le plus efficient possible entre ce qu'on va courir
Ouais.
en valeur absolue et puis finalement l'écart qu'on va créer avec le point de départ de Meriden. Est-ce que la course elle se gagne en partie beaucoup là ou pas? Enfin, à quel point c'est contributif du succès?
La course se perd sur une mauvaise trace,
D'accord.
GPX. Elle se gagne pas dessus, elle se gagne dans les heures difficiles sur un 24 heures. Les heures difficiles, c'est entre 16 et 20 heures de course. C'est là le creux, en général, il est là. Après, les 4 dernières heures, tu sens l'arrivée, entre guillemets, donc tu peux serrer les dents, mais il se gagne dans ce creux, en fait. Donc, ouais, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour jouer le gagne. Ouais.
Est-ce que tu as précisément ton parcours en tête au kilomètre près, tes points de ravitaillement, où il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un peu inconnues et qui sont pas improvisées, mais est-ce que tu as les grandes orientations, mais où est-ce que tu rentres dans un niveau de détail extrêmement précis et tu connais rigoureusement chaque route que tu vas emprunter?
Il y a pas mal de temps passé sur Google Maps à faire du scroll pour essayer de voir exactement si tu as un bord de route, si tu n'as pas de bord de route, etc. Si tu peux effectivement courir là. J'avais fait une première trace que j'avais qui était plus optimale, donc qui n'était pas à 93%, mais qui était à 96%. Mais en arrivant sur place le jour J, pendant la course, je me suis aperçu que c'était peut-être un peu trop dangereux. Et donc, du coup, j'ai dévié mon plan. Et donc, cette déviation m'a fait perdre du temps, mais au final, je pense que c'était plus safe. D'un point de vue sécurité, c'était mieux. Donc, il y a encore une route qui est encore plus optimale qui existe, et j'en ai trouvé une qui évite les sections difficiles. Maintenant, j'ai une route à 96%. Donc, 3 km comme ça peut paraître rien, mais en fait, c'est énorme parce que c'est 3 ou 4 km que tu n'as pas à courir et que tu peux rajouter au final sur ta distance à vol d'oiseau, qui est la distance qui compte vraiment. Et quand tu es en train de faire des duels à distance et sur 24 heures, ça se joue à moins de 4 km, clairement, 4 km de gagné, c'est gigantesque en fait. C'est un peu l'équivalent d'avoir des plaques carbone versus des tennis de chez Carrefour, tu vois. Enfin, c'est des trucs génériques, quoi. Donc, c'est énorme. L'avantage concurrentiel est énorme.
Est-ce que tu es ouvertement venu pour la gagne cette année-là? Est-ce que tu t'es fixé un objectif de kilomètres à
Non,
parcourir?
j'étais pas du tout venu pour gagner. J'étais vraiment venu pour passer, du coup, l'anneau des 100 miles et aller récupérer cette black medal, qui est un peu mythique sur cet événement. C'est vraiment celle qui est vraiment dure à aller chercher. Et une fois que j'ai su que ça allait rentrer, et que j'étais plutôt bien placé, plutôt en tête depuis un bon bout de temps, ça m'a titillé et je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Enfin, j'ai pas mal tergiversé pendant une bonne partie de la journée à partir de midi. Donc midi, ça veut dire, comme on est parti à minuit, c'est à mi-course à peu près. Et à partir de mi-course, j'étais en train de réfléchir quand même. Tu viens de faire la déviation, si ça se trouve, tu vas plus pouvoir gagner pour autant. Enfin, ça me paraît compliqué, même si ça faisait du coup 8-9 heures que j'étais en tête. Et l'écart était stable, en légère augmentation. En gros, je gagnais 300 mètres toutes les heures. Donc 300 mètres toutes les heures, c'est rien en fait quand on y pense. Hein. Mais c'est ça, il y avait 300 mètres d'écart de gagner toutes les heures. Et donc ça a commencé à me titiller un petit peu, mais c'était plus un coin de la tête, quoi.
Est-ce que tu connais certains concurrents dans la start list? Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis plus particulièrement de l'œil sur cette course-là?
Oui, en fait, on se connaît quasiment tous. Il y en a beaucoup qu'on s'était croisés donc en Irlande, dont un qui s'appelait Sean, il y en a un qui s'appelait Marc. Et Sean est un fervent compétiteur. C'est quelqu'un qui est costaud, qui a plusieurs 24 heures avec des 100 miles, avoir passé les 100 miles. Donc c'était clairement l'un des grands favoris. Après, j'ai plus des amis qui étaient là aussi, qui étaient là pour courir. Ce qui est plutôt drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi avec Sean en le taguant 2 jours, enfin 2 minutes avant le départ, en disant bon bah voilà, j'ai pris une photo avec les deux vainqueurs, donc voilà, au moins j'aurais, c'est plutôt cool.
Il avance dans le temps.
Et il était en avance de 24 heures. Ouais.
Et est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes particulièrement au moment où t'es lancé? Est-ce que la nuit, par exemple, c'est un sujet pour toi? Est-ce qu'il y a vraiment des points d'interrogation particuliers ou globalement t'es assez serein?
Moi, j'adore la nuit. Tu mets le cerveau en pilote automatique, tu laisses les gens parler et ça avance tout seul. Donc moi, la nuit, c'est un bastion, quoi. Ça avance tout seul. Et là, en plus, en fait, comme tu peux voir avec l'application, où est-ce que tu en es par rapport aux autres. Donc en fait, si tu veux, tu as un tracking live de tout le monde. Tout le monde a une balise GPS. Et donc, tu vois le progrès de tout le monde. Et tu as les kilométrages de tout le monde en réel, mais enfin, en temps réel, mais à vol d'oiseau. Donc, tu as effectivement ce qui compte vraiment pour la position, quoi. Et donc, bah, je regardais toutes les demi-heures ou toutes les heures en fonction du période de la journée, mais pour savoir où est-ce que c'en était, quoi. Et c'était absolument incroyable à voir. Et donc, du coup, non, la nuit, pour moi, ça a toujours été simple, si tu veux, parce que bah, des nuits blanches en courant, j'en fais une dizaine par an, grosso modo. Donc, forcément, quand on n'a qu'une affaire et pas deux à la suite, c'est plus simple, en fait. Mais c'est par expérience, quoi. Mais ouais, du coup, la nuit, c'était génial. C'est
Ton terrain de
absolument
jeu.
génial. Puis tu viens de partir, tu cours pendant 8-9 heures avant de nuit, avant d'avoir le jour. Et puis tu as quand même le bonheur de voir le lever du jour en ayant couru toute la nuit. Ça, c'est toujours un grand moment, on va pas se mentir.
Au bout de combien de kilomètres tu te retrouves tout seul? Est-ce qu'il y avait une trace un peu commune avec d'autres coureurs au démarrage ou est-ce que très vite tu te retrouves
Non,
tout seul dans ton aventure?
je me suis retrouvé très vite tout seul parce que ben, j'allais quand même vite, on va pas se mentir. Et j'avais décidé de faire un départ plutôt rapide pour éviter que quelqu'un se mette dans mon sillage et juste me suive tout le long. Puisque dans ce format-là et puis au Royaume-Uni, j'étais toujours le seul Français à venir. J'étais the French guy to beat. Et c'était un peu mon surnom, entre guillemets, sur pas mal de ces formats-là. He's the French guy here, yes. The French guy is
The one
here.
to beat.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je voulais éviter que quelqu'un me suive de trop près et puis bénéficie de complètement ma navigation, que quelqu'un veut. Voilà. Donc, je suis parti un peu rapidement. Mes tout premiers kilomètres n'étaient pas vraiment optimaux. Du coup, sur ces premiers kilomètres, je sais que j'allais me retrouver derrière par rapport à d'autres personnes, parce que si quelqu'un a une ligne droite au début, forcément, lui, il va être à 100% d'efficacité sur le début, mais après, ça va être moins bien. Et moi, mon début était très compliqué. En fait, il y avait beaucoup de petites routes, etc., qui tournaient dans tous les sens, donc pas du tout efficace. Mais ensuite, j'avais une énorme ligne droite. Et donc, du coup, mon efficacité, elle était vraiment sur, à partir de 50-60 km, j'avais vraiment limite une ligne droite qui allait jusqu'à Londres et qui traversait Londres après. Et donc, du coup, c'était très efficace sur la fin. Donc, je savais que sur les 2 premières heures, j'allais avoir plein de monde devant et qu'on n'allait rien y voir. Pas parce qu'il faisait nuit, mais on voyait rien sur la carte. C'était non représentatif. Et à partir de 3 heures, je me suis aperçu que, bon, là, ça commençait à se décanter. Les noms que je connaissais commençaient à apparaître sur la carte en étant les gens les plus loin, etc. Donc, au bout de 3 heures, on a commencé à voir un peu qui allait manger qui, à quelle sauce on allait faire un duel. Et donc, on était en duel à. Un duel à 3 plutôt. Donc on était avec moi et Sean un peu devant et quelqu'un qui était juste après nous, mais les trois, on était capable de. Ça se voyait entre guillemets au bout de 3 heures qu'on était capable d'aller au-delà de cet anneau noir, d'aller chercher la Black Meadow.
La fin de cet épisode nocturne n'a pas été tout à fait simple pour toi. Tu t'es retrouvé en difficulté au
Oui,
niveau
j'avais
hydratation.
soif. J'avais soif. Il n'y avait pas d'eau et du coup, comme les stations essence n'avaient pas encore ouvertes de nuit, donc du coup, il faisait vraiment, vraiment soif. Donc je savais que ça allait être un problème. Je le
T'avais
savais.
anticipé ça. C'est pas que t'avais sous-estimé le besoin,
Non,
c'est
je
juste
n'avais
que
pas
c'était le.
sous-estimé. Je savais qu'il n'y allait rien avoir. Le problème, c'est que en fait, il faisait plus froid que prévu, et donc j'ai un peu plus bu. Et donc du coup, je me suis retrouvé un peu short. C'était un peu short. Ouais, j'ai eu vraiment soif pendant 1 heure et demie. Et après, au niveau début du point du jour, et puis la première station en service, et puis Eureka, Alléluia, on pouvait enfin ravitailler après la nuit et de continuer à avancer. Après, je savais que le reste allait être plus simple, parce qu'en plus, on approchait de plus en plus vers la civilisation. Donc on s'éloignait complètement de Birmingham, qui est à côté de
Melbourne.
Meriden. Et plus on arrivait dans la grande banlieue de Londres, etc., plus il y avait d'opportunités de se ravitailler et autres. Donc il fallait passer le difficile avec le terrain difficile, avec la navigation un peu plus compliquée dans la nuit, avec des trucs un peu plus bizarres. pour pouvoir passer, pouvoir enfin passer ça. Et ouais, boire le matin, c'était bien. C'était bien.
Donc l'épisode nocturne se passe bien, on l'a dit. Aux environs du kilomètre 70, tu commences à creuser l'écart globalement. Tu commences à
c'est ça, ça loin. Commence à creuser et ça continue entre guillemets à creuser. Donc pas de beaucoup, hein. Mais toutes les heures, ça rajoute un petit plus. Et donc c'est vrai que c'était assez cool, tu vois, de dire, bon, tu fais seulement ton objectif, ce que tu as prévu pour toi-même, mais tu es quand même devant. Et donc ça commence un peu à titiller l'envie d'aller voir ce que ça donne, est-ce qu'on peut effectivement gagner ou pas, quoi. Donc c'est à ce moment-là où ça commence à réfléchir, quoi. Ouais, parce que je suis vraiment là pour faire autre chose, je suis vraiment là pour travailler, mais dans le même temps, tu sais, quand t'as un requin, t'as pas faim, mais t'as du sang dans l'eau, ben, t'as envie de croquer un peu, tu vois. C'est un peu ça, quoi.
Au kilomètre 90, le hasard fait assez bien les choses, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, tu fais évoluer un peu ton parcours initial pour éviter une double de voie, je crois.
C'est ça, ouais. En fait, il y avait une double de voie où il était censé normalement avoir un espace sur le côté, donc pas une bande d'arrêt d'urgence, mais vraiment une ligne pour pouvoir marcher ou du coup courir à côté. Mais au final, quand je suis arrivé sur place, eh ben, c'était pas forcément le cas. Et du coup, pour éviter de m'engager là-dessus, qui allait être quand même quelque chose. Alors, c'était autorisé de le faire parce que c'était une deux fois deux voies, mais c'était pas une autoroute en fait. Donc, c'était comme une grosse nationale, si vous voulez. Mais c'était techniquement légal de rester sur la bande d'arrêt d'urgence, mais je trouvais ça trop dangereux. Donc, du coup, j'ai dévié de mon parcours. Donc, j'ai rajouté des kilomètres inutiles. Mais au final, j'ai choisi un parcours qui allait passer par les canaux de Londres. Il y a beaucoup de canaux. C'est un peu comme le canal du Midi, si vous voulez. Donc, des gros canaux avec des bateaux dessus, etc. Donc, qui sont là. Et donc, il y a des berges. Et donc, tu utilises les berges. Et ce qui était assez marrant, du coup, dans cette déviation, c'est que j'ai croisé en sens inverse une course qui était. Après, je suis après ce que c'était. C'était un semi-marathon, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ils sont en train de courir dans l'autre sens. Et moi, j'étais en train d'avancer, du coup, avec un dossard, en tenue complètement orange de prisonnier. Avec un gros sac, alors qu'eux étaient en train d'essayer de courir comme ils pouvaient. Et donc j'ai fait un nombre de high five, j'ai tapé dans les mains d'un nombre de personnes, mais absolument incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce uluberlu
C'est de
qui va
l'autre
dans l'autre
côté,
sens?
demi-tour.
Oui, faites demi-tour, c'est de l'autre côté. Ouais. Je l'ai entendu quelques fois, celle-là.
Tu passes la barre des 100 km après 11h25 de course et tu as alors 6 km d'avance sur ton premier poursuivant qui est Sean, je
Ouais.
pense, à ce moment-là. Est-ce que c'est en phase avec le rythme que tu imaginais? Toi, comment t'es à ce moment-là? Comment sont les indicateurs?
En fait, je suis plus rapide que prévu. Et ça, c'était incroyable parce que j'étais encore sur les temps pour passer 200 km en 24 heures. Et 200 km en 24 heures, c'est dur. C'est vraiment dur. Et alors, je savais que mon allure allait forcément se dégrader. Donc, j'avais pas qu'une demi-heure. J'avais 35 minutes de marge, entre guillemets, pour le faire en 12 heures, mais 12 heures 100 km. Mais je savais que ça allait se dégrader complètement. Donc, les 200 km, elle est très difficile. Et il y a un moment où je fais ce ravitaillement au bout de 100 bornes, parce que pile à ce moment-là, je suis dans une ville, donc je peux me ravitailler. Et il y a un moment dans ma tête, au moment où je suis assis en train de manger, etc., je suis en train de littéralement de réfléchir à ce que j'essaye de partir en tant que dératé, potentiellement en explosant et en détruisant complètement l'objectif, pour essayer de passer les 200 km à pied. Ça m'a trotté la tête. Et ça m'a trotté un peu la tête aussi après. Et au final, j'ai fait non, fais ton objectif, t'es venu pour faire un truc, tu fais ton objectif. Et puis là, c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, la gagne, c'est pas pour toi. Enfin, si tu l'as, c'est bien, c'est cool, mais fais ton objectif et ça sera bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si on peut gagner, on gagne, mais je vais pas me faire violence pour le faire. Je suis venu valider quelque chose, je le fais. J'ai essayé de me raisonner à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais encore une tête où je pouvais raisonner avec moi-même, donc j'ai pu me garder sous
Prendre une
contrôle. Et puis
décision éclairée.
je suis reparti après le ravitaillement. Sera évidemment improvisé sur un parking, ouais.
Après 15-16 heures de course, la situation commence à se corser un petit peu pour toi et il y a Sean justement qui commence à faire une remontada.
C'est ça. Là, ça a été un peu tendu parce qu'en fait, je regardais du coup toutes les 10 minutes ou un quart d'heure l'application pour savoir où ça en était, parce que l'écart est en train de se réduire en fait, parce que Sean, je l'ai su après, mais en fait, avait un espace où lui, il avait une ligne droite par rapport à sa trace. Quelque chose de très plat, absolument nickel, sur une route qui était absolument parfaite, donc quelque chose de très efficace. Et moi, j'étais au bord d'un canal et il y avait un peu de boue, etc. Donc, c'était pas des grandes flaques de boue, hein, mais en fait, ça ralentissait. Et puis ensuite, moi, j'accusais le coup, je commençais à avoir faim aussi. Donc j'avais un coup de moins bien parce que j'avais plus trop de bouffe dans mon sac et je savais que je devais ravitailler, mais il fallait quand même que je fasse les kilomètres pour pouvoir arriver à mon prochain point de ravitaillement. Et j'étais un coup de moins bien. Et donc, je vois Sean revenir, et puis je fais, il revient, il revient, il revient. Et puis au bout d'un moment, il passe, quoi. Entre 16 et 17 heures de course, quelque chose comme ça, il passe devant. Et puis là, je fais, bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est Sean, je le connais bien, ça me fait plaisir que ça soit lui, que ce soit pas le troisième, entre guillemets. Que ça soit lui, c'était, je trouvais ça plutôt cool. Et donc, entre guillemets, je laisse partir. Je marche pendant 1 heure, quoi. Je marche pendant 1 heure parce que je suis KO. Et j'arrive enfin pour ravitailler, quoi. Et au moment où je suis en train de ravitailler dans cette station essence, là, Sean, il doit avoir 2 ou 3 km à vol d'oiseau devant moi. Donc, en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 3 heures ou 4 heures, il a comblé le trou et il est passé devant. Et je suis en train de me ravitailler et tout. Et c'est là où, en fait, je reçois un message d'un directeur de course. Le directeur de course, c'est celui de la course en Irlande, sur lequel j'avais rencontré Sean également. Et donc, il nous connaissait tous les deux. Et il m'envoie un message du style « Mais tu vas vraiment laisser passer Sean comme ça ?» En mode genre, tu vois. Et là, j'ai fait, non, mais en fait, c'est mort. Et donc là, le plan de juste passer les 100 miles et m'arrêter vole en éclats. Et je finis de manger rapidement et je pars. Et j'essaye de courir le plus possible, le plus rapidement possible. Donc à ce moment-là, je me mets à courir très très vite. Donc très très vite, ça veut dire 10 km heure. Après 17 heures de course, 10 km heure, c'est compliqué. C'est compliqué.
Et là, tu fais c'est un coup de poker en quelque sorte. Là, pour le coup, tu passes au stade, ça passe ou ça casse.
Là, c'est, je suis passé en mode compétition et on oublie la raison et on voit si ça passe et on essaye parce que je sais qu'il faut que je maintienne 10 km heure parce que Sean, lui, va pas craquer. Donc, 10 km heure ou rien et j'arrive pile au moment où j'arrive sur les pourtours de Londres où il commence à y avoir cette fameuse avenue de 25-30 km qui est tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Et c'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette trace, c'est justement pour avoir dans les environs de 18 à 21h, 22h de course, cette ligne toute droite, en léger faux plat descendant, avec un terrain nickel, où tu as juste à avancer. Et un truc hyper efficace. Et du coup, je me mets à accélérer là-dessus. Et donc j'essaye d'avoir ces fameux 10 km heure. Je les maintiens pas tout à fait, je suis à 9,8 ou un truc comme ça, mais ce qui est quand même très rapide. Du coup, en l'espace de 3 heures, au bénéfice de ce terrain hyper avantageux de mon côté et de l'autre côté, mais ce que je ne savais pas également, Sean qui lui attaquait une zone plutôt vallonnée avec quelques virages, etc. Donc c'était beaucoup plus défavorable. Je réinverse la tendance et en 3 heures, j'étais à moins 2 ou moins 3 km et je repasse à plus 1. Et à partir de là, en fait, l'écart a fait que augmenter, augmenter, augmenter. Donc pas de beaucoup. Mais suffisamment pour me dire que en fait la tendance a été inversée. Et là, la baraka mentale de te dire qu'en fait t'es repassé devant et que là, franchement, il va vraiment falloir qu'il mette une bonne dose, m'a donné vraiment des ailes et m'a poussé ensuite sur le reste de Londres une fois que j'ai traversé les ponts pour pouvoir continuer à avancer, avancer et autres. C'était un moment absolument, absolument incroyable.
Sean avait engagé des gens à Londres, je crois, pour t'envoyer des œufs sur
Oui,
ça.
alors c'était assez drôle parce que, enfin, il était 22h30 ou 23h, donc à ce moment-là, je sais que j'ai course gagnée puisque j'ai 5 ou 6 km d'écart. Et en gros, il faut que, même si je marche à 5 km heure, il faut que Sean puisse courir sa dernière heure à 13 km heure pour gagner. Autant dire que ça n'arrivera pas. Et 13 km heure à vol d'oiseau. Donc, enfin, c'était pas possible. Donc, je savais à ce moment-là que j'avais à peu près gagné. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une fenêtre et qui m'a balancé un œuf. J'ai pas compris. Alors heureusement, j'avais la.
Is the French guy to beat?
C'est un peu ça, ouais, c'est le French guy to beat. Oups, on envoie un petit œuf. Non, c'était des jeunes
Gratuit.
qui avaient envie de s'amuser. Ouais, c'était du gratuit. C'était un peu étrange comme accueil. Mais bon, après, du coup, moi, j'ai continué un petit peu mon chemin. J'étais en train de plus alterner à ce moment-là rando course parce que j'en avais quand même plein les bottes. Et surtout, je savais que les 200 km en distance réelle n'étaient plus possibles, en fait. Donc, comme ils étaient plus possibles, j'allais dépasser les 190 km pour sûr, ce qui allait être mon meilleur temps sur ma meilleure distance sur 24 heures. Donc, j'étais content.
Mission accomplie.
J'avais dépassé la black medal. J'avais dépassé les 190. Je savais que j'avais la victoire. Et là. Donc je me reçois l'œuf et tout, et 10 minutes après, je commence à regarder la carte, et il y a un point qui apparaît au milieu de nulle part sur la carte. Et en fait, c'est comme si un compétiteur était à proximité de moi et était en train de me rattraper complètement.
Sorti de nulle part.
Sorti de nulle part, donc à proximité, donc pas physique de moi, mais à vol d'oiseau. Et ça sort de nulle part, et le point va vite, enfin vraiment vite, et je fais mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et je suis en train de m'affoler, du coup je me recommence à courir. Je fais genre, mais non, je veux pas. Maintenant. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais genre, ah, peut-être que c'est une erreur, mais je peux pas. Si c'est pas une erreur, je suis dans la. Enfin, je peux pas, pas maintenant, pas après tout ça, quoi. Donc, je remets à courir et j'envoie un message au directeur de cours. Je fais, le point c'est là qui est en train de bouger, c'est qui? Parce que, enfin, ça vient de nulle part. Et ensuite, 20 minutes plus tard, donc pendant 20 minutes, je courais au plus vite que je pouvais pour essayer de lutter contre ce truc-là. Et au final, le directeur de course m'envoie un message. Non, non, c'est quelqu'un qui a oublié de tourner sa balise, tout va bien, t'es tranquille, c'est bon, c'est pour toi. C'est pour toi. Et là, du coup, je vois, c'est bon.
La bonne blague.
Voilà, la bonne petite blague. Et puis, du coup, je passe la dernière demi-heure à trottiner légèrement au lieu de marcher, parce que, du coup, bah, comme j'avais redébloqué les jambes pour pouvoir réaccélérer, je finis la dernière demi-heure en trottinant. Et je finis. À une station-service qui était fermée à minuit. et donc, du coup, bah, j'arrive au milieu de nulle part, t'as personne, t'as pas ligne d'arrivée, truc et tout. Tu fais bon, bah, ok, tu prends un petit selfie à côté d'une station Shell.
T'arrives à profiter quand même si c'est pas les cadres habituels d'arriver avec plein de ferveur et plein de monde.
Est-ce que... à bien profiter parce qu'en fait, du coup, j'avais envoyé un petit message sur les réseaux sociaux une demi-heure avant en disant bon, bah, je pense que c'est bon. Et ensuite, au moment de la fin du truc, j'ai envoyé ma position et mon kilométrage final, donc mon kilométrage réel était à 194 km, qui est aujourd'hui toujours mon meilleur temps sur 24 heures. Peut-être plus pour longtemps, puisque je vais faire un petit test en février là. mais ça tient toujours pour l'instant. Et donc j'étais hyper content et j'ai juste publié un c'est bon, j'ai gagné. Et puis là, le nombre de messages et d'appels téléphone que j'ai reçus dans la demi-heure, c'était absolument incroyable. Et donc je me suis retrouvé au milieu de nulle part, j'avais froid, j'avais plus d'eau, plus de bouffe. Du coup, j'ai appelé un Uber et je suis arrivé dans une soirée d'une amie qui m'hébergeait. Et donc, du coup, je suis parti littéralement en soirée, aller boire des bières pour célébrer la victoire et faire un peu de jeux vidéo.
Une soirée bien méritée.
En prolongation de ça, c'était assez incroyable.
Est-ce qu'elle a une saveur particulière pour toi, cette victoire?
Oui, elle a une grosse saveur puisque c'est vraiment la première fois où j'avais. Où je trouve que j'ai gagné une course, genre pour de vrai, quoi. C'était une vraie course. Alors, j'avais gagné des 5 km aux US, donc, dont un qui était sur glace.
Okay.
Il y a eu un blizzard, et puis j'avais passé tout l'hiver à courir sur glace, et donc, du coup, j'avais pu tirer mon épingle du jeu parce que j'avais appris à courir à 17 km/h sur glace, sans pic, et les autres pas. Donc, ils étaient à 15, j'étais à 17, donc normalement, ils me mettaient une douille, mais pas cette fois-ci. J'avais toujours gagné avec des conditions bizarres. Et là, j'ai gagné dans les règles de l'art, entre guillemets. Donc, même si ça reste une course un petit peu étrange, j'avais gagné dans les règles de l'art. Donc, ça, c'est une saveur tout à fait particulière. Et je voulais aller défendre mon titre en 2020. Mais bon, 2020 étant 2020, on attendra 2021.
Ça n'est que partie remise.
C'est ça.
Dans quel état physique tu as fini la course? Est-ce que ça a des gros impacts sur toi?
Étonnamment, non. J'étais plutôt en forme. Et puis après, j'avais quand même bien géré. Donc, j'étais pas parti trop vite pour ensuite exploser. Donc, j'avais quand même bien géré. C'était un peu rude le lundi matin au réveil pour aller l'Eurostar. Je marchais pas tout à fait droit, mais c'est pas parce qu'on avait trop bu. Hein, c'est parce que vraiment, ça faisait mal aux cuisses. Mais c'est vrai que c'était. C'était plutôt bien, franchement, plutôt frais, mais c'était le travail de plusieurs années de prépa avant.
Puis quand on gagne une course, on est aussi dans des dispositions psychologiques qui aident à la récup peut-être un peu plus.
C'est ça, voilà, ouais, quand on passe mentalement. Le
sentiment du travail accompli.
Ouais, une telle expérience, c'est sûr que ça aide clairement à récupérer plus rapidement.
Est-ce que tu penses que ta première expérience à Meriden l'année précédente, elle a été déterminante dans la gestion de cette course? Est-ce qu'elle a contribué significativement à ta victoire aussi? Est-ce que là aussi, ça a été une construction en soi
sur cette
course?
Je gagne pas la deuxième année si j'étais pas en binôme avec Gary la première année et si j'avais pas pris une masterclass de 36 heures avec lui. Parce que ça m'a construit complètement aussi sur ma gestion de l'autonomie et autres avec lui. Donc non, concrètement, c'est grâce à lui que j'ai gagné. Et en fait, pour l'anecdote, en fait, on devait repartir en 2018 ensemble, mais lui, il a eu un empêchement, du coup, je suis parti en solo. Ça s'est décidé, du coup, 2 mois avant. J'ai pu transférer mon inscription de enchaîner à être avec solo. Lui à solo. Et donc, du coup, j'ai pu gagner comme ça. Mais ouais, sans lui, je ne gagne pas, hein, clairement.
Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cet Escape from Meriden?
L'arrivée anticlimactique est quand même assez drôle. Et je trouve que c'est assez emblématique de ce que je fais dans ce sport. C'est des trucs où tu n'as pas vraiment de dossard, de cadre ou autre. Enfin, donc, j'aime beaucoup l'arrivée. Sinon, l'œuf, c'est quand même assez drôle. Mais non, plutôt croiser dans l'autre sens, plutôt croiser dans l'autre sens tous les gens qui étaient en train de courir leur semi-marathon. Et moi, ça faisait déjà 12 ou 13 heures que j'étais parti. Ouais, c'était plutôt drôle.
Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais à nouveau prendre le départ?
J'aurais mieux planifié ma route pour éviter d'avoir le double voie directement dessus. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà prévu ma trace pour 2020. Donc, du coup, je la garde au chaud. Et quelqu'un m'a demandé de la partager quand j'ai annoncé que j'avais déjà trouvé une trace plus optimale. Et j'ai fait,
Non.
ben non.
Non, merci. Oui, mais non.
Oui, mais non. Non, non, je comprends que tu as envie de la voir, mais tu la verras le jour J.
Bien tenté.
J'aime bien
Osez
tenter.
quand même.
Ouais,
Y a...
on peut demander. Non, mais c'était quelqu'un qui voulait faire un des anneaux inférieurs, il voulait faire 50 miles, et il voulait avoir un truc le plus optimal. Sauf que ma trace n'est pas optimisée pour 50 miles, donc c'est pas la plus optimisée qui existe pour 50 miles. Mais par contre, sur 100 miles et au-dessus, c'est là où elle est optimisée. Ouais.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé avec nous cette évasion parfaitement réussie.
Avec plaisir.
On va parler maintenant d'avenir. Est-ce que tu peux nous parler de ton calendrier de course 2020, alors que ce soit au titre de coureur, mais il y a aussi une casquette d'organisateur. Voilà, est-ce que tu peux me raconter tes projets qui sont notamment en lien avec la course dont on s'est parlé aujourd'hui?
Complètement. Bah, pour commencer ça, donc en mars, donc le 27 mars, donc Escape from Meriden débarque en France avec Escape from France. Oui, j'ai été très original dans le nom. Et donc l'objectif, c'est de s'échapper de la ville de Bourges, qui est au centre, au final de la France. Et voilà, donc avec les fameux anneaux à aller chercher pour avoir des médailles différentes sur 50, 100, 150 et le très difficile 200 km. Qui peut être battu, mais bon, il faut quand même courir entre 214 km au minimum sur la meilleure trace que j'ai trouvée. Donc 214 sur 24 heures, c'est quand même des sacrés morceaux. Mais je pense que ça va faire le plein, puisque c'est un événement qui est complètement dingue. Et il y a plein de gens qui se sont inscrits en binôme pour aller le courir ensemble. Donc chacun a leur propre dossard, etc. Ils sont pas enchaînés ou autre, hein, de manière normale, mais ils sont là pour aller aussi sortir entre copains. Et puis avec ce qu'on a aujourd'hui, avec le Covid et autres, de pouvoir se retrouver avec un départ, aller courir avec des copains et autres, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis
En
c'est
termes de
vraiment le...
distanciation, on est bien.
Oh, à distanciation, on est quand même plutôt bien. Tu peux avoir jusqu'à 350 km d'écart entre les participants. Donc c'est plutôt... pas trop
Pour les
faire
gestes
mieux, ouais.
barrières, c'est bien.
Ouais, donc ça c'est vraiment le truc qui est, je pense, cool. Et en
Il est
termes
probable que j'y
d'organisation...
sois, hein, parce que tu m'en as parlé lors de notre
Ouais.
entretien préliminaire et je suis à deux doigts de cliquer sur WeEvent, puisque
Clic,
c'est là
clic,
qu'on peut.
clic, clic.
Je vais déjà motivé autour de moi, donc il y a des chances qu'on se voit fin mars du côté de
Avec
Bourges.
plaisir. Je pense que c'est un format qui a de l'avenir en France. Et c'est le genre de format, ouais, qui sont vraiment, vraiment sympas. C'est hyper ludique. Et puis à suivre pour les amis et autres, c'est absolument génial. C'est le dot watching, au lieu d'avoir que tout le monde qui suit, tu essaies de voir où est-ce que les gens vont passer. Il y a des gens qui passent des heures à regarder, essayer d'anticiper où est-ce que les gens vont regarder et autres. C'est absolument incroyable à suivre. Après, côté orga aussi, donc il y a deux, trois autres trucs. Donc j'organise aussi Paris by Night, qui tous les ans, normalement c'est la nuit, mais bon, là avec le couvre-feu, ça sera 2 jours. Où on fait 80 km dans Paris, où on va explorer 100 monuments de Paris. Donc là, c'est début janvier. Ensuite, on organise à 24 heures à Vincennes, que je vais courir également autour du lac des Méniles. Donc c'est un anneau, hein, grosso modo, de 2 km, enfin 1 km 900 et quelques. Et on tourne pendant 24 heures. Donc on va espérer que le couvre-feu ait sauté à ce moment-là, ce sera en février. Et puis ouais, d'autres objectifs. Je vais forcément faire Saint-Jacques-de-Compostelle en courant, c'est 1 600 km. Et puis également, voilà, les 5 000 km de vélo pendant le premier confinement m'ont donné des envies. Et je vais aller faire du coup Race Across France, qui est un 2650. On retrouve le fameux chiffre de la Via Alpina. Alors là, c'est le doublé. Ça m'a donné deux fois l'envie de m'inscrire. Du coup, d'aller traverser la France à vélo. Voilà, essayer de voir ce que ça peut donner de convertir l'expérience du long en courant, de le mettre sur un vélo. Je trouve que ça peut être une expérience assez, assez incroyable. Donc j'allais faire ça. Et puis ensuite, retourner sur les championnats de backyard.
Est-ce qu'à plus long terme, il y a un défi absolu, ultime que tu as en tête ou c'est trop tôt, il va se dessiner avec le temps, avec les enseignements que tu vas tirer justement de tous tes projets déjà sur les mois et les années à venir? Est-ce qu'il existe déjà ou est-ce que tu ne veux pas le
Non,
connaître?
il existe déjà. Il y a des chances que j'aille faire un tour sur l'Appalachian Trail en 2022.
C'est
Voilà.
bientôt 2022, tu es
Ouais, ouais, ouais,
dans les clous sur la préparation, enfin
ouais.
c'est…
Ouais, je suis dans les clous sur la prépa. Concrètement, hein, faire cette année Saint-Jacques-de-Compostelle et 2600 à vélo, ça fait partie de mes deux sorties longues de l'année pour l'année prochaine. Donc, ouais, l'Appalachian Trail, c'est 3 550 km avec 150 000 de D+. Donc, c'est beaucoup plus roulant que les Alpes, quoi. Parce qu'il y a 1000, il y a 900 km de plus, mais il y a 0 km en D+, en plus. Donc, beaucoup plus roulant. Donc là, l'objectif, c'est d'aller faire les jambes et de savoir courir 100 km à plat par jour. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire sur Saint-Jacques-de-Compostelle.
À l'inverse, est-ce que tu te vois des limites où il y a des choses sur lesquelles on ne verra jamais ou des choses que tu t'es interdit de faire? Tu parlais de la nuance tout à l'heure de sécurité. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu ne feras jamais?
Des choses que je ferai jamais, je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie d'aller aujourd'hui sur de l'alpinisme et autres. À l'heure d'aujourd'hui, j'y vais pas parce que de toute façon, j'ai pas le niveau, hein. L'alpinisme, c'est un sport complètement différent. La haute montagne, ça s'apprend. On parle pas tout seul en haute montagne comme on peut le faire en moyenne montagne. Déjà, on devrait pas le faire en moyenne montagne, mais bon, je suis pas forcément un très bon élève là-dessus. Mais sur la haute montagne, c'est pas, enfin, ça s'apprend, hein. Parce que là, c'est vraiment, si on se plante, on meurt. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas encore l'envie, donc pour moi, ça reste une limite. Maintenant, je suis en train de me titiller sur aller faire des Ironman, peut-être un Ironman en 2022, c'est tentant, parce qu'avec le vélo, la course à pied, et puis j'ai gardé la natation, mine de rien, donc en
Le
2019,
bébé nageur que tu es.
donc du coup, j'avais fait un test en 2019. Je suis allé nager 10 km pour voir, et je les ai rentrés en 3 heures, et je les ai rentrés comme ça en piscine, enfin, pas de. Et c'est passé tranquille, donc la technique est encore là, et maintenant il y a l'endurance qui est dessus, donc peut-être un Iron, et peut-être aller tester un petit DK, DK Iron, c'est en train de me trotter un petit peu dans la tête en ce
Ah oui, c'est
moment.
trop simple un Ironman pour toi. Trop classique.
Bah,
Non, trop simple, je plaisante, bien sûr, mais.
c'est pas simple, mais en vrai, en vue des barrières horaires encore, 16h ou 17h pour finir un Ironman, ça me paraît pas insurmontable. En vue de ce que j'ai déjà fait. Quand tu as l'habitude de faire des efforts de 72 heures, forcément 16 heures d'efforts, ça me paraît pas. Alors c'est une autre intensité, mais ça me paraît pas insurmontable. Donc ouais, je suis plus intéressé d'aller faire ça pendant une semaine sur un DK, quoi. Ça serait hyper intéressant. On va voir.
À suivre.
À suivre.
Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu as le motto de la fin à partager avec nos auditeurs?
Ouais, comment le formuler proprement? J'ai plus de rêves, j'ai des projets. Je crois que c'est ça un peu l'idée. C'est
Tu exécutes tes plans.
ouais, au lieu d'avoir un rêve, un truc qu'on se place mais auquel on bosse pas forcément et autres, j'essaie de le convertir en projet. Pour moi, l'UTMB, quand j'ai commencé à courir, c'était un truc absolument mythique, un truc que je ferais une fois dans ma vie potentiellement machin. Et en fait, je me suis mis à travailler directement dessus. Et la vie alpina, c'était ça aussi. C'était une espèce de rêve lointain. Et puis en fait,
Que
il
ça
fallait le
devienne une
faire.
réalité.
Ouais, et puis moi, je peux pas vivre autrement, en fait. Sans projet, je vis pas. En fait, il y en a, ils respirent. Moi, je fais ça. Enfin, c'est vital, quoi. Ouais.
C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir fait vivre avec toi cette course vraiment atypique et
Avec
enfin, franchement
plaisir.
géniale. Je trouve le concept assez fabuleux et je suis ravi qu'on ait eu l'occasion de prendre le temps de la faire vivre à nos auditeurs. Enfin, ça aurait été vraiment dommage qu'il passe à côté. Bravo encore à toi pour cette très belle victoire.
Merci beaucoup.
Je te souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans tes nombreux projets. On l'a entendu, la liste est assez longue. Et voilà, je te dis à très bientôt. Merci encore Guillaume pour le temps que tu nous as
Merci
accordé.
beaucoup. On se retrouve à Bourges, du coup, c'est ça?
On se retrouve à Bourges fin mars, c'est
Ça
noté dans mon
marche.
calendrier. Venez, on se retrouvera tous là-bas. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.